Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce n'est pas n'importe quel ange, mais un chérubin armé d'une épée de feu qui, d'après le récit de la Genèse, a été choisi par Dieu pour protéger l'arbre de vie, empêcher Adam et Ève de venir en prendre le fruit après qu'ils aient été condamnés et chassés du paradis terrestre. Et ces chérubins, nous les retrouvons ensuite dans l'Ancien Testament autour de l'Arche d'Alliance, cette arche qui contenait notamment la manne qui avait été donnée par Dieu pour nourrir le peuple élu. Et l'on peut dire qu'il y a dans l'histoire de l'Église un chérubin qui a également été choisi pour protéger le fruit de l'arbre de vie, le nouveau fruit qui est la Sainte Eucharistie, la nouvelle manne qui est la Sainte Eucharistie, et qui la protège avec une épée de feu. Et c'est le grand docteur Saint Thomas d'Aquin qui a composé la messe qui est en train d'être célébrée en l'honneur du Saint-Sacrement. Et non seulement cette messe, mais tout l'office du Saint-Sacrement. Nous venons d'entendre chanter cette séquence qui s'appelle le Laudation, qu'on a pu surnommer le Credo du Saint-Sacrement, car on y trouve exposées toutes les vérités importantes qu'il faut croire sur la Sainte Eucharistie, et on les trouve exposées un petit peu de la même manière que on trouve exposées dans le Credo les vérités qui concernent l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Credo qu'on chante à la messe, que nous allons donc chanter dans quelques instants, a été composé après le Concile de Nicée, et il insiste sur toutes les vérités qui concernent notre Seigneur, disant qu'il a été engendré et non pas créé, qu'il est la lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Et on trouve la même insistance dans le chant qu'on vient d'entendre sur toutes les vérités qui se rapportent à la Sainte Eucharistie. Saint Thomas insiste notamment en disant « Si jamais on est contraint de couper la Sainte Eucharistie pour la distribuer, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas craindre, car notre Seigneur reste tout autant présent dans chacune des parcelles qu'il l'est dans l'ensemble et qu'il est au ciel avec son corps glorieux. » Mais je vous propose, plutôt que d'insister sur cette séquence que l'on vient d'entendre, de nous intéresser aux trois hymnes que saint Thomas a composés en l'honneur de la Sainte Eucharistie, hymne que nous avons récité à Vêpres hier soir, dès les premières Vêpres, à Matines et à l'Aude. Dans les trois cas, dans ses poèmes, dans ses chants, saint Thomas présente un récit de la Sainte Cène, de l'institution de la Sainte Eucharistie, mais sous trois lumières différentes. Dans l'hymne des Vêpres, le Pange Lingua, saint Thomas chante la Sainte Eucharistie comme le prolongement de l'incarnation. Il rappelle la merveille qui était déjà ce mystère de l'incarnation, mais pour mettre en relief sa continuation plus merveilleuse encore dans le Saint-Sacrement de l'autel. Ensuite, dans la deuxième hymne, celle de Matines, Sacris Solemnis, saint Thomas s'élève encore, c'est-à-dire il se centre non plus seulement sur l'incarnation, mais sur l'incarnation rédemptrice, le mystère de la rédemption. Et il montre dans la Sainte Cène le sacrifice de la Nouvelle Alliance qui vient accomplir et remplacer jusqu'à la fin du monde les sacrifices de la loi ancienne. Enfin, dans la troisième hymne, l'hymne de l'Aude, Verbum Supernum, saint Thomas s'élève encore plus haut s'il est possible, il s'élève jusqu'au mystère de la Sainte Trinité et il considère avant tout la mission du Verbe de Dieu et il voit dans la Sainte Eucharistie l'accomplissement de cette mission éternelle. Voyons donc, si vous voulez bien, rapidement ces trois points. Et d'abord, comment la Sainte Eucharistie est le prolongement de l'incarnation. Saint Thomas essaye de montrer que l'incarnation a déjà été une merveille, mais qu'elle est continuée de façon plus merveilleuse encore dans la Sainte Eucharistie. Et pour cela, il s'intéresse bien sûr à l'Ancien Testament. Vous vous souvenez peut-être, à Noël, nous chantons ce passage d'Isaïe, « Puer natus es nobis, filius datus es nobis ». Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et saint Thomas en fait l'écho, « Nobis datus, nobis natus ». Bien sûr, parlant de l'incarnation, il se réfère à la Sainte Vierge, la Vierge Marie, qu'il ne nomme pas, mais à qui il fait une double allusion. Il la désigne d'abord comme « Ventris generosi », un saint généreux, et aussi comme il dit que notre Seigneur est né « ex intacta virgine », né d'une vierge sans souillure. Et c'est un premier trait de comparaison entre le mystère de l'incarnation et le mystère de la Sainte Eucharistie. C'est celui-là, la façon merveilleuse dont s'est accomplie l'incarnation. Saint Thomas s'intéresse aussi à ce qu'est venu faire notre Seigneur Jésus-Christ et il souligne le fait que celui qui, de toute éternité, est le Verbe de Dieu, qui, en tant que Verbe, vit éternellement en une seule parole tout ce qui est Dieu, a voulu ne plus se contenter d'être ainsi un Verbe divin, mais employer des paroles humaines pour venir nous transmettre la vérité divine. Et donc, alors qu'il y a de toute éternité cette parole divine, ce Verbe divin, il est venu semer les paroles, un certain nombre de paraboles, un certain nombre d'enseignements, et qui sont toujours référé à ce qu'il est lui-même, le Verbe divin, et sans se diviser, il réussit à se multiplier en donnant à ses apôtres cet enseignement. Or, saint Thomas nous montre ensuite qu'il se passe quelque chose d'analogue dans la Sainte Eucharistie. Il insiste sur le fait que le moment était particulièrement bien choisi pour l'instituer, puisque c'est le moment où allait s'achever le séjour de notre Seigneur ici-bas. Ce séjour que saint Thomas appelle « incolatus », ce qui, en latin, ça désigne une résidence dans un pays étranger, on peut dire un exil. Notre Seigneur est venu, il est venu vivre avec nous, « conversatus », partager notre vie, mais il est quand même sur terre, il n'est pas vraiment chez lui, et il fallait qu'il s'en aille. Particulièrement une fois qu'il avait un corps glorieux. Et il convenait qu'il trouve un moyen de prolonger son incarnation, même au moment où il devait partir. Et c'est ainsi que par un ordre admirable, miro ordine, au moment où il devait partir, où il devait achever ce séjour ici-bas, il trouve un moyen de le continuer. Le continuer comment ? Eh bien, dans la Sainte Eucharistie. Et à la différence de ce qu'il dit ailleurs, saint Thomas n'insiste pas ici sur le fait que notre Seigneur Jésus-Christ a pris du pain et qu'il l'a changé en son corps, qu'il a pris du vin et qu'il l'a changé en son sang. Non, dans cet hymne, saint Thomas présente les choses de façon inverse. Il insiste sur le fait que le Verbe de Dieu, qui était venu chez nous en se faisant chair, est allé encore plus loin en transformant cette chair en nourriture. Verbum caro panem verum, verbo carnem efficit. Donc, ce qui l'intéresse ici, c'est cette chair qu'a pris le Verbe de Dieu, cette chair qui est transformée en nourriture. parce que c'est la continuation de la mission, la continuation de l'incarnation de notre Sauveur. Il trouve un moyen pour rester ici-bas, et de la même manière qu'il avait distribué les paroles humaines sans que cela le divise, et bien de la même manière, le divin semeur va multiplier sa présence eucharistique sans que cela nuise aucunement à l'unité de sa personne. C'est donc le thème de la première hymne, la Sainte Eucharistie, qui continue le mystère de l'incarnation. Mais saint Thomas va plus loin dans l'hymne suivante, l'hymne Sacri Solemnis, dans laquelle il insiste sur le sacrifice de la nouvelle alliance. Parce que notre Seigneur n'est pas seulement venu pour être avec nous, il est venu pour s'offrir en sacrifice. Et ce sacrifice avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Et donc, alors que dans la première hymne, saint Thomas avait parlé, sans la nommer, de la Sainte Vierge, en montrant comment cette incarnation qui s'était faite de façon miraculeuse en la Sainte Vierge était, pour ainsi dire, renouvelée par la Sainte Eucharistie, où là, notre Seigneur ne reçoit plus sa chair de façon miraculeuse d'une vierge, mais la distribue de ses propres mains, sedat suis manibus. Ici, dans cet hymne, saint Thomas fait référence à plusieurs reprises, mais toujours sans le nommer, à Moïse. Moïse est la grande figure qui est sous-entendue dans toute l'hymne. Moïse, qui a délivré son peuple et qui a institué le sacrifice avec l'agneau pascal. Et ici, saint Thomas donne une deuxième raison sur la convenance de l'institution de la Sainte Eucharistie à ce moment précis de la Sainte Cène. Eh bien, c'est que notre Seigneur a commencé, dans un premier temps, par offrir un premier sacrifice, qui était le sacrifice de l'agneau pascal, le sacrifice de la loi ancienne, et pas seulement l'agneau, mais l'agneau avec des pains azimes, agnum et azima, et il convenait que ce repas sacrificiel de l'agneau pascal s'achève avec l'institution du sacrifice qui allait le remplacer. Car notre Seigneur l'a dit, je fais toutes choses nouvelles. Il y a un nouveau sacrifice, et saint Thomas s'en fait l'écho en disant « Tout doit être nouveau ». De même qu'il y a un nouveau sacrifice, tout doit être nouveau, nos cœurs, nos voix, nos œuvres. Et non seulement notre Seigneur Jésus-Christ accomplit la figure de l'agneau pascal en s'offrant en sacrifice, mais il institue des prêtres, semblable aux prêtres de l'ancienne loi, pour continuer cette offrande du sacrifice jusqu'à la fin du monde. C'est ce que dit saint Thomas, c'est le seul endroit de tout l'office du Saint-Sacrement où il insiste sur ce point. Ainsi, dit-il, fut institué par lui ce sacrifice dont il voulut confier le ministère aux seuls prêtres, car c'est à eux qu'il incombe d'y communier et de le donner aux autres. Et non seulement il accomplit le sacrifice et il le distribue en instituant un sacerdoce, mais il remplit aussi les autres figures, et notamment la figure de la manne. Quand on parlait dans l'Ancien Testament du pain des anges, d'un pain venu du ciel, notamment dans les psaumes, il s'agissait de la manne qui avait été donnée à l'époque de Moïse. Et notre Seigneur lui-même, dans son discours du pain de vie, a dit « Ça n'était qu'une figure, le vrai pain du ciel, le vrai pain des anges, c'est moi. » Et saint Thomas y insiste « Panis angelicus fit panis hominum, dat panis angelicus figuris terminum. » Le pain des anges devient le pain des hommes, le pain du ciel met fin aux figures. « Ores mirabilis, manducat dominum, pauper servus et humilis. » Ô prodige admirable, il mange son Seigneur le pauvre esclave, le pauvre et faible esclave, Pauperseus et Tuis. Enfin, dans une troisième hymne, Verbum Supernum, saint Thomas s'élève encore plus haut en considérant les choses du point de vue de la Trinité Sainte et de cette mission éternelle du Verbe de Dieu. Saint Thomas commence cet hymne par ces mots, « Verbum supernum prodiens », le Verbe venant d'en haut. Et ce sujet, « Verbum supernum prodiens », ce nom est le sujet de toute une série de verbes, ensuite, pendant les quatre strophes qui suivent. C'est toujours l'action du Verbe de Dieu. Le Verbe venant d'en haut, sans quitter la droite du Père. Et on a entendu à l'instant dans l'Évangile, notre Seigneur, dans son discours du pain de vie, faisant le lien entre ce pain qu'il va donner et cette mission que lui-même a reçue du Père. Il est envoyé par le Père et il vit propter patren, il vit pour le Père. Et bien de la même manière, continuant cette mission, il vient donner ce pain de vie, se donner lui-même en pain de vie, pour pouvoir nous transmettre cette vie divine, cette vie qui vient de la Sainte Trinité. Et c'est le grand thème que l'on trouve dans toute cette hymne, notre Seigneur qui est don. Toute sa vie n'a été que don, il n'a fait que se donner de toutes les façons possibles. Et saint Thomas dit, en naissant, il s'est donné à nous comme compagnon. En mangeant, en étant convive à la scène, il s'est donné à nous comme nourriture. En mourant, il s'est donné à nous comme rançon. Et enfin, en régnant dans le ciel, il se donne à nous en récompense. Notre Seigneur est le don du Père et il vient pour se donner. Et c'est pour cette raison aussi que l'institution de la Sainte Eucharistie a été très bien placée, parce que Jésus avait dit « Ma vie, personne ne me la prend, elle ne m'est pas ôtée de force, ma vie, c'est moi qui la donne. » Et pour cela, pour bien montrer qu'il donnait sa vie et qu'on ne la lui prenait pas de force, il convenait souverainement que juste avant que notre Seigneur soit livré par Judas, il se livre lui-même, il se donne lui-même dans la Sainte Eucharistie. Devant être livré par un de ses disciples à ses ennemis jaloux, il voulut d'abord se livrer lui-même à ses disciples comme aliment de vie. Alors qu'il allait être livré à la mort, il a voulu d'abord se livrer lui-même comme aliment de vie pour montrer qu'il est vraiment le don du Père et pour accomplir parfaitement cette mission. Bien sûr, cette mission qui vient de la Sainte Trinité, qui est de nous transmettre la vie divine, va s'achever dans la Sainte Trinité puisque notre Seigneur n'est venu que pour nous ramener avec lui vers son Père. Et c'est là encore le point que souligne saint Thomas, « Ô salutaris hostia, ô victime qui nous sauvez, vous nous ouvrez la porte du ciel, celi pandis hostium. » Pour terminer, mes frères, on peut parler d'un dernier poème de saint Thomas, donc on a cité la séquence qu'on a chantée tout à l'heure, on a cité ces trois hymnes que saint Thomas a composé à la demande du pape pour l'office du Saint-Sacrement, l'hymne de Vêpres, l'hymne de Matines, l'hymne de l'Aude. Mais il y a encore un nouveau poème eucharistique fait par saint Thomas qui est beaucoup plus personnel, qui ne lui a pas été demandé, semble-t-il, qu'il a rédigé pour exprimer sa piété et qui s'appelle « Adorote dévote ». Et là, on remarque tout de suite que saint Thomas s'exprime à la première personne. « Je vous adore avec dévotion, Dieu caché. Adorote dévote latens deitas. » Durant tout le poème, il ne parle pas au nom de l'Église en disant « nous ». Il parle en son propre nom. Et dans ce poème, on ne va pas étudier en détail, mais saint Thomas souligne que la Sainte Eucharistie est un grand mystère de foi, que c'est d'une certaine manière la vérité qui manifeste le plus la foi, parce que notre Seigneur ne cache pas seulement sa divinité, mais il cache son humanité. Sur la croix se cachait votre seule divinité, in cruce latebat sola deitas, attic latet simul et humanitas. Mais ici, en même temps, se cache votre humanité. Et comment réagit saint Thomas? Il dit, il faut croire. Et la définition de la croix, la définition de la foi, c'est croire ce que Dieu dit, parce que c'est Dieu qui le dit. Et saint Thomas y insiste. Credo quidquid dixit Dei filius, je crois tout ce qu'a dit le Fils de Dieu. Je n'ai pas le droit de faire le tri, c'est propre de l'intégrité de la foi, l'objet de la foi, il faut croire tout ce qu'a dit le Fils de Dieu. Et le croire pour quelle raison? Parce qu'il est la vérité. Nihil verbo veritatis verius. Il n'est rien de plus vrai que cette parole de vérité. Et parce que saint Thomas avait une grande dévotion envers son patron, l'apôtre Thomas, il s'y réfère et il demande à croire, mais lui d'une façon plus vive que l'apôtre Thomas, puisque l'apôtre Thomas a cru à la divinité de notre Seigneur, mais après avoir vu les plaies de notre Seigneur ressuscité. Et saint Thomas demande à croire sans voir. Vos plaies, je ne les vois pas comme les voyait Thomas, mais vous êtes le vrai Dieu, et cependant, je le confesse. Plagas sicut Thomas non intueor, Deum tamen meum te confiteor. La dévotion à la Sainte Eucharistie a été la grande dévotion de saint Thomas. Vous savez comment il allait prier devant le Saint-Sacrement lorsqu'il avait des difficultés à résoudre, et comment, après avoir composé cet office que nous sommes en train de célébrer, cet office du Saint-Sacrement, il est allé le présenter devant le crucifix en demandant à notre Seigneur ce qu'il en pensait. C'est là qu'il a reçu à Orvieto, d'un crucifix qu'on voit toujours, qui est toujours conservé là-bas, cette parole: « Thomas, tu as bien écrit du sacrement de mon corps. » Et encore, au moment où il allait mourir, lorsqu'il a reçu la Sainte Eucharistie pour la dernière fois, en viatique, il ne pouvait plus célébrer la messe, un autre prêtre a donc dû lui apporter la Sainte Communion, saint Thomas s'est écrié: « Je te reçois, prix de la rédemption de mon âme, pour l'amour de qui j'ai étudié, veillé, travaillé, je t'ai prêché et enseigné, je n'ai jamais rien dit contre toi. Je ne veux pas m'obstiner dans mon sens propre à ce sujet, mais si j'ai dit quoi que ce soit de mal de ce sacrement, je laisse tout à la correction de la Sainte Église romaine, dans l'obéissance de qui je sors de cette vie. » Donc c'est pour l'amour de la Sainte Eucharistie qu'il a étudié, veillé, travaillé, prêché, enseigné. Nous pouvons le prier, en récitant cet office qu'il a composé, nous aider à grandir dans notre dévotion au Saint-Sacrement, nous rappelant que ce sacrement, bien sûr, ici-bas, est sans doute ce que nous avons de plus grand, mais ça n'est qu'une préparation, de ce qui nous est promis au ciel, et c'est ce que dit saint Thomas en conclusion de son Adorote Devote. Jesu quam velatum nunc aspicio, oro fiat illud quotam sitio, ut te revelata certiens facie, visus in beatus tue glorie. Jésus, que sous un voile à présent je regarde, je vous en prie, que se réalise ce dont j'ai si soif, vous contemplez la face dévoilée, et que je sois bien heureux à la vue de votre gloire, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.